Bonsoir, trois thèmes pour Petrobine de la Presse, à savoir, à quelques heures de la date butoir du découpage territorial tel que prévu par la Constitution, quelle est la position du gouvernement au moment où l'on assiste à des prises de position tendant à réclamer l'application de l'article 226 de la Constitution. Ensuite, adoption par les deux chambres du Parlement du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI en cible. Enfin, visite à partir de ce vendredi à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. Trois journalistes participent à ce débat. Il s'agit d'Arnaud de Mbolekouni, le journaliste à la radio-télévision catholique Elikia, émettant depuis Kinshasa. Patrick Tchamala, il est rédacteur en chef de Télé 7, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Et Clément Mangoubou, il est éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire paraissant à Kisangani en province orientale. Découpage territorial, adoption de la loi sur la CENI ainsi que la visite du Conseil de sécurité des Nations Unies, tels sont les thèmes retenus pour le débat de ce soir. Comment la presse chinoise a traité ces différents sujets? On écoute cette revue de presse que nous présente Samuel Kachak.
Bonsoir. Les journaux parlent cette semaine à Kinshasa ont mis un accent particulier sur la question du découpage territorial. Agitation autour des 26 provinces, le gouvernement rappelle les préalables, les députés divisés sur l'application de l'article 226, titre Le Phare. Ce journal rappelle que le délai butoir pour le passage de la RDC de 11 à 26 provinces expire ce vendredi 14 mai. Pas de cessation des litouries le 14 mai, souligne la République, qui estime que le Premier ministre Adolphe Mouzito et les parlementaires de la province orientale se sont accordés sur la nécessité d'aller progressivement dans ce dossier de la création des nouvelles provinces au lieu de mettre le feu aux poudres. Autre sujet abordé cette semaine, c'est l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. Le potentiel renseigne alors que le Sénat, pour des raisons d'équilibre, de neutralité et de crédibilité, a suggéré que la société civile fasse partie de l'exécutif de cette Commission nationale électorale indépendante. L'Assemblée nationale, quant à elle, a rejeté cette proposition. Comme des As parlant de la CENI, estime que le Sénat s'est incliné en adoptant à son tour la version de l'Assemblée nationale. Terminons cette revue de la presse avec le potentiel qui confirme que les membres du Conseil de sécurité arrivent à Kinshasa aujourd'hui vendredi avec comme mission de dissiper quelques malentendus dans les rapports établis avec les autorités politiques congolaises.
Merci Samuel Kachak. Un petit commentaire par rapport à cette régie de presse que nous venons d'écouter. Patrick Mbolekouni, vous êtes journaliste à la radio-télévision catholique Elikia, émettant depuis Kinshasa. Votre réaction par rapport à la manière dont la presse de cette semaine a traité ces différents sujets?
Oui, ma réaction directement, c'est ça pour tout simplement que c'est une semaine très mouvementée par des événements politiques. Alors nous attendons voir la suite de tous ces événements.
Oui, Patrick Tchamala, vous êtes rédacteur en chef de Télé 7, c'est une télévision qui émet depuis Kinshasa. Une semaine, comme vient de le dire Arnaud de Mbolekouni, une semaine très mouvementée, c'est votre point de vue?
Oui, une semaine très mouvementée, mais aussi on aimerait voir, par exemple à travers la presse, que l'on essaie un peu d'être un peu plus explicite, un peu plus explicatif. Les problèmes qui se sont posés, qui se posent, notamment sur le découpage territorial, et même sur la question de la CENI, c'est des vrais problèmes qu'il faut prendre au sérieux, mais que la population ne connaît pas très bien. Et c'est justement le rôle de la presse d'être un peu plus explicatif et un peu plus pointueux quand même sur la question, et c'est ça qu'on n'a pas senti. On a un peu senti une presse jouer un peu le jeu de politicien. C'est un peu ça. J'aurais voulu que la presse de cette semaine revienne un peu, beaucoup plus en profondeur sur ces questions pour faire voir l'ampleur, la profondeur même de ces questions qui se posent.
Clément Mangoubou, vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire par EFA qui est en Mani, en province orientale. Quelle est l'actualité qui a dominé cette semaine la province orientale?
Oui, l'actualité qui a dominé cette semaine la province orientale, c'est les déclarations multipliées par les députés d'Elituri, du Bas-Zélé et de la Tchopo autour de la d'accession de leur district au statut des provinces. C'est l'Ituri qui a donné le ton, suivi par les Bas-Zélé et aujourd'hui, c'était hier la Tchopo. Mais nous pensons que nous avons déploré cette forme de manque de solidarité de la part de l'Ituri, parce que le problème du découpage est un problème national, un problème général. L'Ituri ne peut pas se permettre de prendre comme ça les devants sans poser les problèmes au niveau de l'Assemblée provinciale, sans communiquer avec des députés d'autres districts.
Merci. Avant d'aborder le sujet du jour, nous irons à l'Assemblée nationale où une motion de censure contre le gouvernement Mouzito a été déposée ce vendredi. Cette motion, qui est une initiative de l'opposition parlementaire, a réuni plus de 125 signatures exigées pour être recevable. Patrice Kamala, êtes-vous surpris par cette information qui fait état de cette motion de censure contre le gouvernement Mouzito?
Surpris, non, parce que déjà l'auteur de la motion a annoncé que il était sûr de réunir les
125 signatures.
Jean-Lucien Boussa, c'est de lui que je parle. Bon, écoute, mettons là, c'est une petite victoire, pourrait-on dire, pour l'opposition, parce que réunir 125 signatures, ce n'était pas du coup donné. On ne pensait pas que Jean-Lucien Boussa aurait réuni tout cela. Mais maintenant, ici, je crois que ce qui est positif, c'est qu'on va rentrer dans le débat de fond. Je crois qu'on va rentrer dans le débat de fond, parce qu'on est, on est resté en dehors de ce débat-là pendant longtemps. C'était beaucoup plus maintenant les questions qui ont entouré le débat, notamment sur les accusations portées sur le Premier ministre. C'était beaucoup plus ça qu'on a vu à travers la presse tous ces derniers temps. Et maintenant, avec cette motion de censure qui vient d'être déposée, on va rentrer dans le débat de fond. Et c'est ça qui est ici important. La population n'a pas besoin d'écouter à longueur de journée ceux qui entourent les débats, les invectives qu'on se lance à gauche et à droite. On veut maintenant savoir, dans le fond, qu'est-ce qu'on reproche à ce gouvernement-ci, comment le gouvernement va se défendre et comment la majorité va se comporter devant cette motion lancée à l'encontre de son gouvernement.
Arnaud Mbolekouni, cette motion porte aussi les signatures des quelques députés de la majorité, notamment les courants et rénovateurs. Et vous pensez que la majorité est disposée à lâcher le Premier ministre Mouzito?
Bon, j'avais dit ça la semaine passée aussi, devant des questions cruciales qui concernent la nation, on déplore le comportement des députés de la majorité qui tiennent à tout prix à soutenir certains ministres qui sont de leur plateforme, c'est-à-dire l'AMP. Bon, je me dis que c'est un exercice démocratique. Maintenant là, avec le dépôt de cette motion, les députés sont placés devant leurs responsabilités, c'est-à-dire les députés aussi bien de la majorité que de l'opposition. Donc ils doivent faire montre maintenant de leur capacité de traiter des débats de fond, comme je viens de le dire mon confrère Patrick.
Oui, Clément Mangoubou, comment entrevoyez-vous l'issue de cette démarche initiée par l'opposition?
Bon, je pense qu'on va aller effectivement dans les débats de fond, comme dit les confrères là-bas, mais nous pensons qu'aujourd'hui, ce n'est pas ce théâtre-là qui intéresse les peuples congolais, qui intéresse les populations. Les populations veulent leur mieux-être. Ils veulent accéder à des conditions d'existence beaucoup plus meilleures et que les débats qui vont se dérouler au niveau de l'hémicycle ne les intéressent pas beaucoup parce que on sait qu'à la fin il y aura toujours un arrangement entre l'opposition et la majorité. Et c'est dire que, comme a dit les confrères là-bas, les députés sont placés devant leurs responsabilités, mais alors nous attendons l'issue pour être édifiés.
Merci, nous passons à notre premier thème de ce soir. À quelques heures de la date butoir du découpage territorial tel que prévu par la Constitution, quelle est la position du gouvernement au moment où l'on assiste à des prises de position tendant à réclamer l'application de l'article 226 de la Constitution? Des contraintes d'ordre juridique, économique et financier bloquent l'installation de nouvelles institutions provinciales et locales en République démocratique du Congo. Dans une déclaration faite hier et jeudi à Kinshasa, le gouvernement précise qu'il faut plus de 2 milliards milliards de dollars et des textes réglementaires pour procéder au découpage territorial. En dépit de ces contraintes, le gouvernement affiche sa détermination. À cet effet, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité invite la population au calme et à l'apaisement dans les soucis de préserver l'unité et la paix du pays. Adolphe Lumanu Bonassefou est au micro de Jeff Ngoï.
Quelle réponse le gouvernement réserve-t-il aux déclarations faites par les députés provinciaux de l'Ituri qui disent qu'ils vont proclamer l'Ituri comme province d'ici le 15? Et il y a d'autres agitations pour emboîter le pas.
L'Ituri fait partie de la province orientale qui, dans la perspective du découpage du pays en 26 provinces, devrait en principe avoir 4 provinces. L'Ituri ne peut pas se détacher seul de la province orientale sans compromettre le fonctionnement des 3 autres provinces. Donc, l'idéal, c'est s'il y a érection des districts, des 4 districts de la province orientale en province, cela devra se faire au même moment. Et pour le moment, il y a des conditions qui ne sont pas encore réunies, notamment la loi qui porte des limitations des provinces et de la ville de Kinshasa. Ça, c'est indépendamment des contraintes d'ordre financier et budgétaire.
Et là, vous chargez le Parlement?
Je ne charge pas le Parlement. Dans les instructions qu'il a données, le chef de l'État s'est adressé au gouvernement. En même temps, il a invité le Parlement à faire son travail. Donc, il y a l'unicité du pouvoir, bien qu'il y ait division du travail entre le Parlement et l'exécutif.
Responsabilité est partagée. Adviendra-t-il le 15 si Ituri et d'autres districts ailleurs parvenaient à s'autoproclamer province autonome?
Il n'y a pas vacuum de pouvoir et nous ne sommes pas dans un non-État. La République démocratique du Congo existe comme un État unitaire à ce stade de son existence.
Oui, Arnaud Mbolekouni, nous venons de le suivre. Hein, le gouvernement a finalement donné sa position par rapport à cette question par la bouche du vice-premier ministre Adolphe Lumanu. Comment analysez-vous cette position du gouvernement congolais?
Je devais tout simplement dire que c'est quand même regrettable que le gouvernement réagisse en retard, c'est-à-dire à 48 heures. Du délai butoir. Alors, je me pose une question. Depuis tous les 36 mois, où était le gouvernement? Bon, je ne sais pas. Mais à entendre aussi les vice-premiers ministres, ils jettent la balle maintenant dans les camps de l'Assemblée nationale. Bon, je me dis, nous assistons là à un début d'un jeu de ping-pong. Bon, je ne sais pas. Mais je crois que, au regard de la situation telle qu'elle évolue, les politiciens congolais, je me demande quelle vision ils ont de ces pays, bon, je ne sais pas. Mais je crois que la réaction est vraiment tardive et l'attitude du gouvernement devait, disons, anticiper les décisions, se mettre en contact avec les ténors de toutes ces parties-là, bien avant, et pour que l'atterrissage se fasse en douceur. Malheureusement, ça intervient en retard, je me dis, demain ou à minuit, ça sera la consécration de l'inconstitutionnalité, bon. Où nous allons? Bon, je me pose la question. Attendons voir demain.
Oui, attendons voir demain. Patrick Kamala, vous partagez les mêmes points de vue que Arnaud Mbolekouni qui pense que le gouvernement réagit en retard. Vous partagez les mêmes points de vue?
Le gouvernement a certes réagi en retard, ça c'est vrai. 48 heures avant, c'est le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité qui passe pour donner le point de vue du gouvernement. Mais moi, je voudrais ici quand même qu'on revienne un peu plus loin. Cette question du découpage territorial, cette question de la délimitation des entités décentralisées, les scientifiques ont prévenu, ils ont prévenu à temps. Il y a beaucoup de constitutionnalistes qui ont dit, bien avant, que c'était aujourd'hui impensable. Il y a beaucoup de savants de ce pays qui l'ont dit, qui ont prévenu les politiciens. Aujourd'hui, on s'accuse, on se rejette la balle. Mais écoutez, la responsabilité aujourd'hui doit être partagée. Maintenant, il ne s'agit pas de chercher à savoir la faute à qui, parce que du côté du Parlement, on est en train de charger le gouvernement. Le gouvernement vous dit, bon, écoutez, au Parlement aussi, il y a des lois sur la décentralisation qui sont en souffrance. Le problème aujourd'hui, c'est de voir ce qu'il faut faire, parce que les scientifiques avaient prévenu. C'est pas possible
aujourd'hui, dans le contexte actuel du Congo, de prévoir d'avoir 26 provinces, avec quels moyens, comment on va y arriver, alors que les priorités sont multiples, ils ont été prévus. Mais les politiques en ont fait à leur tête.
Mais
aujourd'hui,
il y a une certaine opinion qui pense que une telle expérience avait été tentée à l'époque, il n'y avait pas de moyens, mais l'expérience avait réussi. Et cette opinion pense que on peut tenter la même expérience aujourd'hui.
La vraie expérience à tenter aujourd'hui, c'est déjà avec les provinces que nous avons, les 11 provinces, réussir la décentralisation. On n'y arrive pas. Est-ce que au niveau de la base aujourd'hui, est-ce que le bourgmestre de la commune de Ngiringiri peut aujourd'hui prendre en charge les questions qui se posent dans sa commune? Que non, puisqu'à chaque fois, il faut recourir soit à l'hôtel de ville, soit au gouvernement central. Déjà au niveau des provinces qui existent, le problème n'est pas résolu. Comment voulez-vous que le problème soit résolu avec les 26 provinces, quand avec les 11 déjà, on n'arrive pas à les résoudre? C'est ça la vraie expérience qu'il faut essayer de d'expérimenter. Parce que depuis la mise en place des institutions issues des élections, on pouvait bien tenter toute cette expérience-là pour voir la décentralisation bien marcher dans ce pays. On n'y est pas arrivé. Je vois mal comment on peut tenter une expérience aujourd'hui de 26 provinces. Et ça, je répète, les scientifiques l'ont dit, l'ont précisé.
Et donc, il faut qu'on attende que les conditions soient réunies pour que l'on envisage l'application de l'article 226 de la Constitution.
Je pense que oui. Et aujourd'hui, maintenant, il faut voir ce qu'il faut faire. Je crois que les politiques, puisque, bon, ils ont une responsabilité à partager, ils doivent voir s'il faut soit amender l'article 226, soit alors on tombe dans l'inconstitutionnalité. Et là, c'est pas normal qu'un pays vive dans l'inconstitutionnalité. On doit voir, à partir de maintenant, il semble que le Congrès a été convoqué, il faut bien que l'on sorte de cette crise, parce que c'est une crise. Il faut bien que maintenant l'on propose. Ça aurait été préférable que cela se fasse un peu plus tôt, comme disait tout à l'heure mon confrère. Le gouvernement aurait pu se saisir de la question bien avant, tout comme d'ailleurs les parlementaires, pour constater que ça traîne de ce côté-là, et chercher entre-temps des voies de sortie. Mais on a laissé les choses, et c'est à la veille que tout le monde se réveille finalement, pour nous dire, bah, écoutez, on risque de tomber dans l'inconstitutionnalité. Je crois qu'il faut sauver ce pays.
Oui, Clément Mangoubou, vous vous trouvez dans la province orientale, où nous avons, sur les 4 districts, 3 qui sont disposés à devenir des provinces, et vous venez de nous apprendre que même la Tchopo a rejoint les 3 autres districts. Donc, c'est tous les districts qui sont disposés à devenir provinces d'ici quelques heures. Quelle est-il, faites-vous, des souhaits exprimés par ces 4 districts?
Oui, sur le plan des projections constitutionnelles, cela est normal. Les provinces ne peuvent que déclarer cela, que demain ils deviennent des provinces. Mais sur le plan de la faisabilité de la chose, nous pensons que cela est tout à fait impossible. Il est quand même déplorable de constater que toutes les institutions sont restées distraites pendant 36 mois pour se réveiller avec la démarche de l'Ituri. Nous pensons que cela est inadmissible pour un pays, pour un État. Il avait fallu que les gens réfléchissent sur ce qu'ils étaient en train de faire. Tout le monde s'était occupé à faire autre chose que de réfléchir sur l'échéance. Mais aujourd'hui, avec la démarche de l'Ituri, tout le monde se réveille subitement. C'est regrettable. Mais nous pensons qu'au niveau de la province orientale, il y a cette volonté affichée et qui a été entamée par l'Ituri. Mais sur le plan de la faisabilité, comme je l'ai dit, c'est un peu difficile parce que le gouvernement lui-même vient d'indiquer qu'il y a des préalables, qu'il y a des conditions à remplir. Le gouvernement qui est chargé justement d'exécuter les lois, si le gouvernement dit cela, nous pensons que la Tchopo, l'Ituri ou les Bazuélé ne vont pas aller en rébellion quand même. Ils vont attendre et je pense qu'il faut une programmation et aujourd'hui il faut négocier cette programmation-là. Étant donné qu'il ne faut pas qu'on ait des crises en crise, il ne faut pas qu'on crée inutilement une crise qui va bloquer le fonctionnement des institutions. Il faut plutôt favoriser la négociation, le dialogue.
Merci, nous allons lire une de certains journaux. Nous avons le quotidien Le Potentiel du vendredi 14 mai, donc d'aujourd'hui. Sur sa manchette, il dit ceci: Constitution, amendement de l'article 226, jour J moins 1. Nous avons le quotidien Le Phare, hein, qui, sous sa manchette, il dit ceci: agitation autour des 26 provinces, le gouvernement rappelle les préalables, l'article 226 divise les députés. Et, bon, en fait, des thèses aujourd'hui par rapport à cette question, une selon laquelle la solution à ce problème serait l'application immédiate de l'article 226, tandis que l'autre recommande la révision de la Constitution. Et comment, Arnold, vous analysez ces deux thèses?
Oui, l'application immédiate, je trouve que ça sera plus effective dans la mesure où les raisons avancées par le gouvernement sont liées au financement.
Les raisons fondées.
Oui, ce sont des raisons fondées. Effectivement, quand vous voyez par exemple d'autres districts qui doivent devenir des provinces, il y a des infrastructures qui posent problème. Où seront installées les différents hôtels des îles, bon, c'est vraiment un problème réel.
Donc vous optez pour la révision de la Constitution?
Oui, un amendement serait la bienvenue.
Oui, Patrice Chabala, quel est votre point de vue par rapport à cette thèse?
Je l'ai dit ici, bon, il est clair que l'application immédiate de l'article 226 relève de l'utopie. Le gouvernement a déjà dit qu'il y avait des contraintes. Aujourd'hui, à un jour, on ne sait pas lever tout ce qui se pose comme obstacle. L'issue semble être maintenant l'amendement. Il faut réviser les choses, il faut réviser. Alors maintenant, là, il y a plusieurs démarches à faire, notamment la démarche peut venir du Parlement. Pour ce qui est de la révision constitutionnelle, soit la démarche peut venir du président de la République, soit du Parlement, soit encore de la population, avec 100 000 personnes, si je ne me trompe pas. Au niveau du Parlement, il faut réunir les 3/5. Les 3/5, ça fait une affaire de plus ou moins 450 parlementaires, s'ils sont d'accord avec l'amendement de quelques dispositions de la Constitution. Je crois que ça peut être la voie de sortie.
Et immédiatement, dans l'immédiat.
Oui.
Que proposez-vous pour éviter la mise en place de ces provinces dans une situation d'anarchie?
Oui, je crois que d'abord nos frères de l'Ituri, de la Tchopo, de Haut-Touélé et consorts devraient aussi. C'est vrai, moi je comprends très bien. C'est tout à fait normal qu'ils fassent pression. C'est tout à fait normal parce que cette constitution a été votée par le peuple par voie référendaire. On ne peut pas aujourd'hui arriver à la veille de l'application de telles dispositions et se taire, laisser les choses aller comme elles font. Il faut bien faire pression. Mais bon, maintenant, il faut aussi être réaliste. Bon, les choses en face. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir ça? Que non, mon confrère de la province orientale, de Kisangani, l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, on est devant une situation telle qu'on ne peut pas demain avoir des petits provinces. Ce qu'il faut faire maintenant, j'étais en train de parler de sauver l'État tout à l'heure, parce que justement, il faut éviter des mouvements du genre rébellion, parce que c'est à des occasions comme ça que les pêcheurs en eau trouble reviennent sur la surface pour chercher à déstabiliser le pays. Et ça, il faut éviter. Il faut éviter l'effet de contagion, parce que l'Ituri va s'élever, la Tchopo s'élever. Alors la province du Katanga également va faire de même, puisque la province n'est pas appelée à exister dans la configuration actuelle. Ce sera pareil dans le Kasaï. On va du côté du Bas-Congo, où on dit à partir du 15 mai, on s'appelle plus Bas-Congo, on s'appelle Congo central. Ça, c'est de l'anarchie.
Et donc, il faut nécessairement que le leader d'opinion demande à la population de se ressaisir, c'est ça?
Bien entendu. Je crois que les leaders d'opinion doivent travailler cette fois-là avec beaucoup plus de raison. Appeler la population au calme. On sait que les députés et les sénateurs, les élus de différents coins n'ont pas tort dans ce qu'ils réclament. Mais maintenant, devant nous, il y a une situation telle qu'on ne peut pas avoir ce qu'on réclame. Qu'est-ce qu'on fait? On va dans la voie de la raison, cherchons maintenant à trouver une autre issue. On a parlé d'une autre programmation de cette installation-là. Ça, c'est des choses qu'on peut faire, qu'on peut envisager à faire à partir du 15 mai.
Oui, Clément Mangoubou, qu'est-ce que vous proposez pour que on ne puisse pas mettre en place ces provinces dans un contexte d'anarchie?
Oui, je pense, à moi, que ça a été un piège tendu à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des pouvoirs publics. Je pense que les députés provinciaux, les notabilités, les sénateurs, les députés nationaux de toute la République sont mis devant leurs responsabilités. Ils doivent regarder la réalité en face. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut vraiment découper de façon abrupte les provinces? Non. Il faut programmer tout cela, et je crois, je l'ai dit, il faut une négociation, il faut un dialogue avec tous les partenaires pour arriver à un calendrier qui puisse satisfaire toutes les parties. Alors, persévérer dans cette voie-là serait une rébellion et ce serait aussi une façon de créer une crise, alors que nous sommes un pays post-conflit. Nous avons des priorités à régler, notamment la pacification du pays, notamment la réhabilitation des infrastructures ou la reconstruction du pays, mais il faut regarder la réalité en face. Maintenant, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est de négocier. Je ne pense pas que ce soit l'État, je ne pense pas que ce soit un piège dressé vis-à-vis du gouvernement, mais je pense plutôt que c'est une sonnette d'alarme. Comme ça, le gouvernement s'est réveillé et il sait qu'il doit prendre les problèmes à cœur maintenant.
Merci, nous passons à notre deuxième thème ce soir. Adoption par le deux chambres du Parlement du projet de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Cette adoption intervient suite à l'absence d'harmonisation des divergences à Paris dans les projets de loi entre les deux chambres du Parlement, notamment l'absence de la société civile. Quelles sont les grandes lignes de ces projets de loi? Réponse avec Julien Niamoni.
La loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle, vient d'être adoptée par l'Assemblée nationale. Elle comporte, entre autres, la mission et les attributions de la CENI, la composition et les modalités de désignation de ses membres, mais aussi elle définit leur statut ainsi que son organisation et son fonctionnement. Cette loi organique prévoit enfin la gestion administrative et financière de la CENI. Cette loi reprend en partie quelques anciennes dispositions existantes, mais elle les modifie et les précise. D'après la commission paritaire, c'est dans le souci d'une efficacité plus accrue. C'est notamment la composition de la commission et le statut de ses membres qui hier dépendaient de leurs composantes respectives. Pour garantir cette transparence, c'est la majorité et l'opposition constituées au sein de l'Assemblée nationale qui participent à la désignation des membres de la CENI. En clair, l'opposition non institutionnelle et la société civile ne sont pas parties prenantes. Finit donc le règne des composantes. Une nouveauté cependant, la CENI comprend un seul organe, le bureau, composé de 7 membres. Le deuxième organe, l'Assemblée plénière de la CENI, proposé par les Sénats, n'a pas ni les deux chambres d'accord. D'autres divergences entre la chambre basse et la chambre haute porte, principalement sur la désignation des membres de la CENI, leur nombre, le sort de la CI, ainsi que le délai d'installation de la CENI.
Patrick Chamala, cette loi a été attendue, c'est en fait l'une des conditions pour l'organisation des prochaines élections. Comment vous réagissez par rapport à l'adoption de cette loi?
Je crois que la loi était très attendue, mais à son arrivée, elle a créé plus de problèmes qu'il y en avait avant son adoption. La société civile a entrepris beaucoup de démarches au lendemain de l'adoption de la loi, de la première adoption par l'Assemblée nationale, des démarches auprès du Sénat. Le Sénat, qui a intégré la société civile, estimant que le bureau de la CENI avait besoin de l'équilibre, d'une dose de neutralité. Voici que la loi ne sera finalement pas adoptée dans un premier temps des termes identiques. Il faut donc passer par la commission paritaire. Et suivant la loi, c'est la version de l'Assemblée nationale qui passe quand jusqu'à ce niveau-là, on n'est pas d'accord. Bon, ok, d'accord. On donne raison à la loi, puisque dura lex et lex. Mais allons-y maintenant dans le bon sens. Je parlais tout à l'heure ici des scientifiques qui avaient prévenu les politiques. Les scientifiques font partie de la société civile. Et hier, on ne les a pas entendus, on ne les a pas écoutés. Aujourd'hui, on est un peu comme devant l'impasse.
Dans cette question, je disais, vous êtes souvent les scientifiques, vous faites allusion à qui?
Non, je parle des hommes des sciences. Dans le cas du découpage territorial, il y a des constitutionnalistes, des professeurs d'université qui ont étudié la question et qui l'ont dit. Ces gens-là font partie de la société civile. Le drame aujourd'hui, c'est que la société civile est individualisée et personnalisée. Quand on dit société civile, on pense à la tête de X, on pense à la tête de Y. Vous et moi, nous sommes de la société civile. De quelle société civile on parle? Je crois que la société civile avait bel et bien sa place au sein de ce bureau. Maintenant, quitte à voir des mécanismes à mettre sur pied pour intégrer cette société civile, pour que ce ne soit pas une société civile proche de tel camp ou de tel autre, parce qu'il y a notamment ça qu'on reproche à cette société civile d'être une nébuleuse, d'être cette composante-là proche de la majorité ou de l'opposition, selon les cas, c'est ça qu'on reproche. Mais
Ceci dit, il y a quand même au sein de la société civile des gens qui peuvent bien faire partie de ce bureau, quitte à appliquer d'abord le principe. Que les principes soient là, on a une société civile qui peut garantir la neutralité, qui peut garantir l'équilibre, et on laisse à cette société civile de se désigner quelqu'un. Il y a eu la loi sur l'opposition politique dans ce pays, n'est-ce pas ? Il y a eu la loi, l'opposition elle est plurielle, l'opposition a aussi des problèmes, n'empêche qu'on a voté la loi en prévoyant qu'il y a un porte-parole de l'opposition, même quand l'opposition est plurielle, même quand l'opposition a des problèmes, je crois que la société civile a sa place. Donc, au sein de ce bureau-là.
Oui, Patrick, plutôt Arnaud Mbolekouni, comme l'a dit Patrick Tiamala, la société civile a sa place dans la CENI, alors que les députés pensent que cette société civile n'existe presque plus, étant donné qu'elle est inféodée aux forces politiques. Quelle est votre position de vue par rapport à cette opinion exprimée par l'Assemblée nationale?
Bon, je crois que la société civile a reflété depuis un certain temps l'image, cette image-là qui lui est qualifiée ou soit qui lui est donnée par les députés nationaux. Mais je crois, pour éviter qu'à l'avenir qu'il y ait encore des crises à répétition sur les résultats des élections, puisque telle partie, telle composante n'est pas dans les bureaux, je crois que la polémique sur la participation de la société civile doit être évitée dès le départ, puisque aujourd'hui, les députés nationaux semblent mettre de côté les revendications de la société civile, mais je crois qu'avec les élections prochaines, les résultats risquent d'être contestés, puisque la société civile est absente. Donc moi, je crois aujourd'hui, comme vient de le dire Patrick, dans la société civile, il y a quand même des vrais acteurs qui sont responsables, je crois, il est temps qu'on leur accorde cette chance-là de prendre part, et aussi à l'opposition non institutionnelle.
Oui, Clément Mangoubou, comment avez-vous accueilli l'adoption de cette loi?
Oui, c'est une très bonne chose pour l'avancée démocratique ou les avancées démocratiques dans les pays, mais nous pensons que la société civile s'est éliminée d'elle-même. Elle est devenue tellement politisée et même confisquée par certains individus qu'elle n'a plus de pignon sur rue, qu'elle n'a plus une grande crédibilité.
Mais parce que Patrick a dit qu'il y a dans cette société civile des personnalités
oui,
qui y a
mais bon, ce n'est pas les personnalités, nous voyons l'ensemble. Mais nous pouvons considérer qu'il y a des corporations comme celles des journalistes, celles des médecins, qui sont encore un peu crédibles, mais dans la grande majorité, la société civile s'est décrédibilisée. Elle s'est politisée à outrance et elle est même confisquée par quelques individus qui veulent à tout prix tout prendre aussi. Alors là, ce n'est pas normal. Nous pensons qu'il faut laisser aux acteurs politiques les rôles d'encadrer cette CENI, mais la société civile, elle est déjà dans la politique, elle est déjà politisée. Nous pensons qu'elle aura son compte là-dedans. Parce qu'il ne sert à rien d'éduquer l'opinion, de faire croire qu'on est de la société civile alors qu'on est inféodé. Réellement, on est inféodé, soit à la majorité, soit à l'opposition. Et il faut se déterminer quelque part dans la vie.
Nous allons lire une des certains journaux. Nous avons le quotidien L'Observateur dans son édition de jeudi 13 mai, donc c'était hier. Sur la maquette, il dit ceci: vote de la loi sur la CENI, le Sénat et l'Assemblée nationale se séparent en queue de poisson. Ça, c'est L'Observateur. Le quotidien Le Potentiel dit ceci dans son édition de jeudi 13 mai, toujours, sur sa maquette: divergence majeure, Assemblée nationale, Sénat. CENI, le chef de l'État interpellé. Et ici, nous avons le quotidien La Tempête des Tropiques, sur sa maquette, qui dit CENI, l'UDPS exige la relecture de la loi. Il y a tout un débat autour de l'indépendance de cette institution, quand on sait que ses membres seront désignés par l'opposition et la majorité, Patrick Tiamala.
Ah, justement, les problèmes vont se poser, un peu plus d'ailleurs, puisque nous aurons un schéma 4+3 au sein du bureau, le seul organe d'ailleurs de cette institution-là, entièrement dirigé par les hommes politiques. Et donc, les calculs, en mon sens, sont aussi faits
au niveau des politiques de telle enseigne que ceux-ci se disent, bon, nous on est au pouvoir aujourd'hui, on sera majoritaire avec les autres. Les autres là se disent aussi, non, il peut y avoir alternance, nous deviendrons majoritaires et ce sera à nous de conduire, de présider aux destinées de cette structure importante. Le problème ici, comme on le disait tout à l'heure ici, je ne vois pas cette structure être indépendante. Quand on sait comment les institutions sont manipulées à souhait dans notre pays, quand on sait combien déjà au sein de au Parlement, combien les élus répondent d'abord de leur piégé avant de voir les intérêts des populations qui les ont élus, qui les ont placés là-bas. C'est d'abord le mot d'ordre du quartier général, de la formation politique, de l'alliance politique, ainsi de suite. Ce sera pareil pour une commission qui sera chargée d'organiser les élections. Là, je crois que c'est un chaos qui peut arriver demain. C'est les choses, justement, qu'il fallait éviter, encore une fois, en intégrant une force tampon, comme la société civile. Là, j'insiste. Aujourd'hui, pour revenir un peu à ce que disait Clément tout à l'heure, la société civile est un FOD. La société civile n'est plus, est devenue politique, même est politisée. Je suis tout à fait d'accord. Mais seulement, c'est parce qu'on pense que la société civile, c'est l'affaire de X messieurs ou de X organisations. J'insiste, je répète, que la société civile n'est pas l'affaire de tel parce qu'il y a une organisation qui s'appelle ceci ou cela de la société civile.
Oui, Harold Mbolekouni, vous pensez, comme le dit Patrick Chamala, qu'en insérant dans cette structure la société civile ainsi que l'opposition non institutionnelle, cela peut garantir l'indépendance même de cet organe?
Bon, dire que l'intégration de la société civile et de l'opposition institutionnelle va garantir l'indépendance, bon, j'ai doute un peu plus que hier, c'est la CI était pointée du doigt sur sa crédibilité, puisque elle était animée par des membres venant des composantes issues du dialogue intercongolais. Aujourd'hui, c'est presque la même phase qui émerge, c'est-à-dire opposition et la majorité 4 plus 3, comme vient de dire Patrick. Bon, mettre une force tampon, je me dis que les problèmes se posent au niveau de la qualité de nos hommes politiques, de ces animateurs-là. C'est-à-dire, chacun doit travailler pour le bien-être de la population. Mais quand il faut rendre compte à son parti politique, à sa plateforme, je crois que c'est en ce moment-là que l'indépendance...
Là, on est en redébable vis-à-vis des personnes qui vous ont choisi. Hein.
Oui, c'est ça. Puisque chacun des membres choisis rend compte à son parti politique positivement de peur d'être éjecté. Dans l'indépendance, j'ai doute fort à cette indépendance-là.
Oui, Clément Mangoubou, une certaine opinion souhaite que le chef de l'État renvoie ses textes au Parlement pour une nouvelle relecture. Pensez-vous que de cette manière, l'on pourra harmoniser les différents points de vue?
Puis, avant de réagir à ces points de vue-là, moi j'ai dit, nous devons relativiser la conception que nous avons de l'indépendance pour une institution. Cette indépendance doit résulter de la ligne de conduite qui va être imprimée à l'institution, mais aussi de l'éthique des hommes qu'on va mettre en place. Mais il y a aussi le fait que l'opposition non institutionnelle ait pratiqué la politique de la chaise vide. Cela ne paye pas. Ce n'est pas aujourd'hui à l'état en dehors des institutions, on doit dire, insérez-nous aussi pour garantir la neutralité. Qu'est-ce qui nous garantit qu'il y aura cette neutralité-là? Alors, deuxième chose, demandons aujourd'hui au président de la République de renvoyer cette loi pour une deuxième lecture à cause de ces faits-là, signifie que nous-mêmes, nous ne sommes pas responsables des faits que nous faisons. Je crois que la loi a été discutée, il y a eu même des débats entre la Chambre basse et la Chambre haute, il y a eu ces jeux de ping-pong, il y a eu ces contradictions, mais qui ont été finalement surmontées. Je crois qu'il faut épargner à la République une telle démarche aujourd'hui. Il faut que la loi soit promulguée et que nous sommes à la veille des élections. S'il faut encore revenir sur un certain nombre de choses, on va faire des sur place, on va marquer les pas. Je crois qu'il faut plutôt avancer.
Merci, nous passons à notre dernier thème ce soir. Visite à partir de ce vendredi à Kinshasa de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies. La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU effectue une visite de travail en République démocratique du Congo ce vendredi 14 et demain samedi 15 mai. Cette délégation vient pour parler avec les dirigeants congolais de l'avenir de la MONUC en République démocratique du Congo. Selon Madnod Mounoubaï, le porte-parole de la MONUC, la délégation du Conseil de sécurité animera une conférence de presse à Kinshasa avant de quitter le pays. Arnaud Dembolé-Kouni, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision catholique Elikia, émettant depuis Kinshasa. Et comment avez-vous accueilli la nouvelle de l'arrivée de cette délégation à Kinshasa?
C'est une arrivée qui m'a... qui me fait dire que, à première vue, il y a eu des divergences sur le départ de la MONUC. Alors l'arrivée de cette délégation est venue, je crois, harmoniser des liens entre New York et Kinshasa. Je crois que c'est une arrivée qu'il faut applaudir pour élucider ou éclaircir la situation sur les départs de la MONUC.
Oui, Clément Mangoubou, je rappelle que vous êtes éditeur responsable du journal Mwangaza, c'est un hebdomadaire qui paraît à Kisangani en province orientale. Arnaud Mbolekouni, il espère que cette visite va permettre d'harmoniser les divergences des vues entre Kinshasa et les Nations Unies au sujet de la question de la MONUC. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Oui, la question du départ de la MONUC a alimenté tous les salons. Il y en a qui ont donné des points de vue. Il y a eu même des organisations qui ont plaidé pour le maintien de la MONUC ici. Il y en a qui ont estimé que la MONUC aussi, après une décennie, pouvait plier bagage. Mais moi, je pense, à mon humble avis, que après tout ce qu'on a connu comme problème dans le pays, nous avons été assistés par la MONUC. Mais il faut quand même qu'après cette décennie-là, à un certain moment, que la République démocratique du Congo puisse s'affirmer sur le plan de sa force, sur le plan de la protection de son territoire, sur le plan de l'organisation des forces armées. Aujourd'hui, avec la réforme qui a été entreprise, avec le peu de moyens qu'on a alloué aux forces armées de la République démocratique du Congo, nous sentons qu'il y a quand même une amélioration sur le terrain, sur le plan sécuritaire. Mais je pense que quelque part, il faut laisser aussi une sorte de manœuvre à la République pour s'organiser petit à petit. Parce que la MONUC ne doit pas rester éternellement au Congo quand même. Il faut qu'après une décennie, les Congos se sentent adultes. Ils disent, bon, voilà, nous avons été assistés, mais on peut quand même aujourd'hui se défendre soi-même. Mais cela ne signifie pas que le départ doit être brutal. Je crois que entre les Nations Unies et la République démocratique du Congo, il y aura certainement des discussions en profondeur pour déterminer les modalités du retrait de la MONUC. Moi, je pense qu'il y a aussi moyen de dialoguer à ce niveau-là, de trouver une programmation ensemble.
Merci Patrice Chamala. Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef de Télé 7, une télévision qui émet depuis Kinshasa. Votre réaction par rapport à cette visite de la délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies?
La délégation du Conseil de sécurité de l'ONU est la bienvenue. Je crois qu'ils arrivent au bon moment. D'ailleurs, ils auraient pu arriver un peu plus tôt, n'eût été la perturbation du trafic aérien en Europe. Je crois que c'est le Conseil de sécurité, finalement, qui a prorogé le mandat de la MONUC en République démocratique du Congo, avec la dernière résolution qui avait pour principal objectif de ramener la paix dans le Kivu et d'accentuer la protection des populations civiles, qui reste d'ailleurs la mission première de la MONUC. Mais il s'est fait que finalement, en 2010, le gouvernement congolais constate que, dans le Kivu, nous estimons que ça marche maintenant plus ou moins bien. Et le travail qui reste à faire, nous pouvons le faire peut-être avec la MONUC, mais en engageant un calendrier où on prévoit le départ progressif de cette mission. Pour ce qui est de la protection de la population civile, nos forces armées, la police, peuvent bien aujourd'hui faire ce travail. Libre à lui, en tant que gouvernement souverain, il le dit. Mais à mon avis, en tant que partenaire, a également un point de vue à émettre, puisqu'elle est sur le terrain, elle connaît beaucoup de réalités, et maintenant, elle a un point de vue à émettre. Il s'est fait qu'entre les deux partenaires, on s'est un peu brouillé.
Je crois qu'il y a lieu maintenant de dissiper les malentendus. Et c'est arrivé du conseil de la délégation du conseil de sécurité, en tout cas, et à mon avis, plus ou moins salutaire, puisque on va, je l'espère bien, une fois pour toutes maintenant, essayer de dissiper les malentendus et aller de l'avant. Décider s'il y aura maintenant un vrai calendrier pour le retrait progressif des forces des Nations Unies, ou alors on va estimer qu'il faut encore du temps. Je crois qu'on va voir la suite de la visite de cette délégation. Mais en tout cas, moi j'estime que nous leur souhaitons toutes les chances pour que tout s'harmonise finalement.
Merci, c'est la fin de cette émission. Willem Lungamba était la technique, Samuel Kachak à la réalisation assistée de Kéline Couté, sous la supervision de Pelé Kipela Mondo, devant ses micros Guy Maté. Merci et excellent week-end sur Radio Capi. Thank you.